Bonjour, en progrès mais peut mieux faire. Le prix des médicaments en Suisse est encore 6% plus cher que la moyenne européenne, mais l'écart diminue à en croire une étude publiée ce matin à Berne. Nous verrons avec Agnès Schenker que les génériques restent deux fois plus chers dans la Confédération. Et nous recevrons Françoise Tchan, ce porte-parole de Santé Suisse, l'organe fêtier des assureurs maladie. On parlera de Noël aussi dans ce journal avec l'engouement des Chinois pour la religion chrétienne, les opérations menées à Lausanne par des récalcitrants à la fièvre acheteuse et le match de tennis entre Roger Federer et Rafael Nadal, organisé ce soir à Zurich au profit de la fondation créée par le Ballois. Nous verrons aussi avec Magali Philippe que la galère des usagers victimes des intempéries fait boule de neige sur les réseaux sociaux. Suite de notre série d'entretiens avec des écrivains édités grâce à la plateforme communautaire My Major Company Book, ce qui permet aux internautes de sponsoriser les auteurs et de financer l'impression de leurs livres. Nous recevrons Eric Witzel pour son polar Ne cherche pas à savoir, un roman haletant sur fond de règlement de compte entre agents secrets et mafieux dans les rues de Naples. Il sera notre invité en direct à la fin de ce journal. Une nouvelle perturbation est attendue sur nos régions cet après-midi avec des averses abondantes sur le bassin lémanique, le Jura et les Alpes valaisannes. Sous forme de neige au-dessus de 1600 mètres, la journée de demain s'annonce grise mais douce avec 10 degrés et dans la vallée du Rhône par effet de fun, nous dira Carole Dubuis. Et on prend des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Dans le canton de Fribourg, entre les localités de Pozieux et de Matran, la route des Muezes est interdite aux poids lourds en raison d'un accident. Cette situation devrait se prolonger jusqu'à 13h30 environ. Le prix des médicaments en Suisse se rapproche donc de la moyenne européenne, mais il reste 6% plus cher. C'est ce qu'indique une étude présentée ce matin à Berne par différents partenaires de la branche. Les génériques sont en revanche toujours deux fois plus chers dans la Confédération que dans les six pays utilisés pour la comparaison. Agnès Schenker, vous êtes en direct de Berne. L'interprétation de ces chiffres varie sensiblement s'ils sont analysés par les assureurs ou l'industrie pharmaceutique.
Oui, effectivement, la démarche commune des organes fêtiers, des assureurs maladie, de l'industrie pharmaceutique et des fabricants de génériques s'arrête à la réalisation d'une comparaison annuelle des prix des médicaments entre la Suisse et six pays européens. L'interprétation de ces chiffres, elle, est très différente selon le point de vue où l'on se place. Premier constat, l'écart de prix moyen s'est nettement réduit depuis 2005, année de la première comparaison. Ils étaient alors 35% plus élevés contre 6% seulement aujourd'hui. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est bien simple, on a pressé le citron du prix des médicaments jusqu'à la dernière goutte. Preuve en est que la branche ne connaît plus de croissance cette année. Il n'empêche qu'il y a encore des différences de prix substantielles sur le marché des médicaments génériques. L'écart est même colossal entre la Suisse et les Pays-Bas ou le Danemark par exemple, où les patients sont pratiquement obligés d'opter pour le générique le meilleur marché, quitte à devoir changer plusieurs fois de médicaments en cours de thérapie. Un système très différent de celui qui est pratiqué en Suisse. Il existe ici aussi des mesures pour favoriser les génériques et elles seront même renforcées l'année prochaine. Mais les médecins gardent la haute main sur le choix des médicaments qu'ils prescrivent.
Agnès Schenker en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. À vos côtés, Françoise Tchens, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Santé Suisse, l'organe fêtier des assureurs maladie. Il y a déjà une régulation du prix des médicaments basée sur une comparaison avec ces six pays réalisée par l'Office fédéral de la santé publique. On a l'impression que votre démarche est un peu similaire qu'à l'intérêt finalement.
Alors, disons que nous avons surtout des opératifs de transparence. Notre but est de pouvoir présenter les résultats sur Internet, en fait les résultats de notre étude, et également d'avoir un contrôle d'économicité. Ainsi, nous pouvons regarder que les résultats, en fait le travail qui est effectué par l'OFSP respecte bien les règles de la LAMAL.
Alors du point de vue de Santé Suisse, quelle est finalement la marge de manœuvre pour faire encore baisser le prix des médicaments ?
Alors en ce qui concerne les médicaments originaux, la marge de manœuvre est moindre. Elle est plus grande pour les médicaments génériques, où on observe encore une grande différence par rapport aux pays européens. Et puis nous nous réjouissons de voir les résultats des mesures proposées par Monsieur le conseiller fédéral Burkhalter pour dynamiser la concurrence. Ils seront certainement suivis des faits et cela se vérifiera certainement déjà dans le cadre de l'étude que l'OFSP effectue tous les 3 ans.
Alors Agnès Schenker vient de le dire, le prix des médicaments génériques pourrait baisser si on avait un changement de système avec un rôle plus important de l'État et des assureurs. C'est envisageable en Suisse ?
C'est une question politique. Cette question s'est déjà posée à plusieurs reprises. Et puis, en fait, nous sommes ouverts, nous, de Santé Suisse, à un changement, effectivement, permettant une quelconque amélioration pour le bien des assureurs. Mais, effectivement, pour l'instant, rien n'a encore été décidé, parce qu'il faut un changement de loi qui peut être seulement décidé par le politique, par le Parlement et le Conseil fédéral. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore obtenu de majorité qui permette de changer quoi que ce soit.
Merci beaucoup Françoise Chance d'être venue quelques minutes en direct dans ce journal. Porte-parole de Santé Suisse, vous répondiez à l'invitation d'Agnès Schenker. Bon après-midi à vous, merci.
À vous aussi, au revoir.
Le secteur de l'horlogerie suisse confirme son retour à la croissance. Les exportations ont gagné près de 30% le mois dernier par rapport à novembre 2009. Cela représente un taux de croissance de 21,8% depuis le début de l'année, d'après les chiffres communiqués ce matin par la Fédération de l'industrie horlogère suisse. 320 000 questionnaires envoyés, 2 600 registres cantonaux et communaux sondés. La nouvelle formule du recensement fédéral sera lancée début janvier. Une méthode plus rapide et moins chère que la précédente, mais des données moins précises, Pascal Jeannerat.
Et jusqu'ici, le recensement de la population, c'était tous les 10 ans une enquête exhaustive avec des millions de questionnaires remplis, un coût de 170 millions de francs. On a donc voulu faire plus souple, plus rapide et moins cher. Et c'est cette formule de relevé combiné, vous l'avez dit, qu'a adopté le Parlement voici 3 ans. Et qui est sur le point d'être mise en œuvre par l'Office fédéral de la statistique. Alors, première source exacte, celle-là, ce sont les registres de quelques 2 600 communes, cantons et administrations fédérales. Après un gros travail d'harmonisation, les données de base pourront être livrées à l'OFS, explique le chef de sa section population, Claude Guiziguer.
Les communes, les cantons doivent nous livrer à intervalles réguliers les contenus de leur registre des habitants via une plateforme informatique que l'on a mise en place. La prochaine fois, au mois de janvier 2011.
Et quelles données sont transmises ?
Alors les données, c'est les données de base du registre des habitants, c'est-à-dire principalement l'âge, le sexe, la nationalité et l'état civil. Tous les résultats sont anonymisés dès le moment où on les exploite, on les analyse.
Voilà donc pour le purement quantitatif. Pour le reste, eh bien, l'OFS en passera par des sondages, certes mammouths, mais tout de même, sur les questions de travail, de formation, religion, langue ou transport, ce seront des sondages portant sur 4% maximum de la population. Un habitant sur 20 recevra un questionnaire avec une marge d'erreur de 1,5%, reconnaît Claude Guiziguer, mais des études, selon lui, suffisamment fiables.
Un sondage comporte une certaine marge d'erreur, c'est évident, mais c'est un très grand sondage, c'est la plus grande enquête que l'on fait. L'année prochaine, on va donc faire une enquête auprès de plus de 300 000 personnes, donc ça donne pour la Suisse une précision qui est très bonne.
320 000 personnes même pour cette grosse enquête structurelle, car plusieurs cantons et villes financeront une densification des relevés pour leur propre compte. En principe, ce sont 200 000 questionnaires qui constituent cette enquête. Il y aura aussi chaque année une enquête thématique par 60 000 coups de téléphone sur la formation l'année prochaine, sur la santé en 2012, là aussi avec une certaine marge d'erreur. Mais c'est le principe de ce nouveau recensement combiné dont les tout premiers résultats quantitatifs seront dévoilés en août prochain et qualitatifs dès la fin 2011.
Dans le canton de Vaud, la droite et le patronat lancent un référendum contre l'octroi de prestations complémentaires pour les familles de travailleurs pauvres, accepté le mois dernier par le Grand Conseil. Le texte prévoit de ponctionner les salariés, les employeurs et les indépendants de 0,6% pour financer cette mesure. Et les référendaires y voient un nouvel impôt sur le travail, Patrick Lefort.
Le financement de ces nouvelles prestations est inacceptable, clament les partis de droite et les représentants de l'économie. Pour eux, c'est clair, c'est la porte ouverte à des prélèvements toujours plus hauts auprès des employeurs et des employés. D'autant plus que ce système n'inciterait pas à travailler davantage. Christelle Luizier, présidente du Parti radical vaudois.
L'aide qui est prévue ici est mal ciblée. On parle d'une aide pour les working poor. Or, dans ce projet, il n'y a aucun taux d'activité lucrative qui est demandé, contrairement par exemple au projet Genevois. Le deuxième élément qui est pour nous fondamental, c'est le financement de ce projet. On est dans un système de politique sociale qui devrait être financé par l'État. Or, nous avons ici un projet qui parle uniquement de ponction sur les salaires, donc sur les entreprises et sur les salariés. Et c'est ça aussi pour nous qui est insupportable.
Mais le Parti radical est divisé sur la question. Il y a un mois, la loi a été votée à une confortable majorité au Grand Conseil avec le soutien d'un tiers des députés radicaux. Parmi eux, Véronique Urny, celle qui est aussi présidente du Secours d'hiver, fait partie du comité de soutien à la loi. Et pour elle, la société a tout intérêt à aider sans attendre les working poor.
En aidant ces personnes à surmonter des moments, donc c'est toujours des personnes actives professionnellement, hein, mais en aidant ces personnes à surmonter un petit peu ce passage critique, on va simplement éviter qu'elles basculent dans le RI, donc le revenu d'insertion, et si on ne fait rien à l'heure actuelle, c'est ce qui nous attend ces prochaines années, avec une explosion du revenu d'insertion qui va coûter beaucoup plus cher à la collectivité.
Les référendaires ont 40 jours pour réunir 12 000 signatures.
À Zurich, la pénurie d'enseignants s'aggrave et même les postes haut placés comme directeur d'école ne trouvent pas toujours preneur pour pourvoir les postes vacants. Le canton est prêt à engager des professionnels qui n'ont pas de diplôme d'enseignement comme des profils de manager, Delphine Gendre.
Oui, les écoles en main d'ex-chef d'entreprise, l'idée ne réjouit pas beaucoup les enseignants zurichois. Mais comme la pénurie guette aussi à la tête des établissements scolaires, l'ouverture de ces postes à des personnes qui savent diriger une équipe et qui souhaitent réorienter leur carrière devient nécessaire. Une fois nommés, ces nouveaux directeurs devront quand même s'acquitter d'une formation pédagogique, mais moins fastidieuse qu'auparavant.
Et finalement, n'importe quel cadre peut postuler ?
A priori, oui. Le Conseil d'État devra, au début de l'année prochaine, proposer une modification de loi au Parlement cantonal pour permettre à des personnes qui n'ont pas ce diplôme d'enseignement d'enseignant de postuler. Apparemment, on ne veut pas réglementer sur le type de formation que les candidats doivent avoir en poche, mais c'est évident qu'il y aura à chaque fois un examen de dossier et tous les candidats ne seront pas acceptés.
Alors, on se souvient, Delphine, qu'au début de l'été, les cantons de Zurich, Berne, Bâle et Argovie avaient décidé d'élargir l'accès à l'enseignement aux personnes qui ne possède pas de diplôme pédagogique. Ça a marché ?
Oui, même les experts se disent surpris. À Zurich, près de 2000 personnes ont manifesté leur intérêt à changer de profession et bifurquer dans l'enseignement depuis cet été. La moitié aurait d'ailleurs le profil pour débuter une nouvelle carrière de prof. Pour endiguer cette pénurie, Zurich avait également d'autres projets comme encourager les retraités à reprendre du service jusqu'à leur 70e anniversaire. Autre mesure, le canton a réévalué la grille des salaires des enseignants cet automne pour faire naître les vocations. Un professeur d'école secondaire qui débute touche 95 000 francs par an contre 88 000 actuellement. Il peut espérer atteindre les 156 000 francs de salaire en fin de carrière.
Delphine Gendre en direct de nos studios de Zurich. La situation devrait se normaliser d'ici demain dans les aéroports européens touchés par les intempéries, mais des vols entre Londres et Genève notamment ont encore été annulés ce matin. Et la neige fait évidemment la une des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube ou Dailymotion regorge de posts, messages, photos et vidéos qui illustrent à la fois la féerie de l'or blanc mais aussi la galère vécue par certains usagers, Magali Philippe.
Oui, qui n'a pas publié sa jolie photo de ses jolis enfants descendant en luge, une rue traditionnellement remplie de voitures. Certains matins, même plus besoin d'ouvrir les volets, il suffit d'ouvrir son profil Facebook pour connaître le nombre de centimètres tombés dans la nuit. Mais les réseaux sociaux sont aussi le nouveau lieu où l'on peut, de manière plus ou moins virulente, drôle et même parfois avec une portée politique, dénoncer la gestion de cette crise neigeuse par les compagnies aériennes, ferroviaires ou même par nos autorités. Ainsi, cette vidéo prise par un téléphone portable de la glissade, c'était la semaine dernière, d'un chasse-neige genevois apparemment dépourvu de chaîne et qui emboutit plusieurs voitures, a créé un véritable buzz, plus de 900 000 vues sur YouTube. De nombreux médias internationaux l'ont reprise en prenant pour cible la voirie genevoise et en se moquant au passage des Suisses. Sur Twitter, le mot-clé neige fait partie du top 10 des mots-clés les plus référencés ces derniers jours. C'est dire si le thème a du succès. Les flocons, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes, relève Margot. Tram 25 coincé à Bulle, le plaisir, écrit Naïm. Sur la route également, les automobilistes pestent en tapotant sur leur téléphone portable. 5 heures que je suis partie du boulot et on n'a fait que 5 km. Ras-le-bol, s'énerve Audrey sur Facebook. Et certains, en désespoir de cause, n'hésitent pas à se servir de Facebook comme d'une centrale d'alarme. C'est le cas d'Hervé, coincé à l'aéroport d'Heathrow depuis hier matin.
Ah, tout bêtement, en statut, on a mis « Sommes bloqués à Londres, recherche contact ». Pour hébergement nocturne, nous sommes trois, dont un enfant de 10 ans.
Et ce statut Facebook, c'est une sorte donc de bouteille à la mer après une nuit blanche passée par terre à l'aéroport.
Plutôt que d'essayer de contacter des amis à droite à gauche où on s'est dit que Facebook finalement c'était peut-être la porte ouverte à quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un, etc. etc. On s'est dit que ça pouvait être un bon moyen de faire boule de neige.
Et prochain vol pour Genève, le 26 si tout va bien pour Hervé et sa famille. Ses aventures à suivre bien sûr sur Facebook.
Un dossier signé Magali Philippe. Situation toujours incertaine et tendue en Côte d'Ivoire alors qu'un autre pays africain vit à l'inverse une transition politique pacifique. Ce pays c'est la Guinée dont le président fraîchement élu, Alpha Condé va prêter serment aujourd'hui. Ancien syndicaliste opposant du précédent gouvernement, le nouveau chef d'État devra répondre à une énorme attente sociale, Nicolas Vultier.
Et comparé à la lente descente aux enfers de la Côte d'Ivoire, la Guinée voisine semble en pleine renaissance. Depuis l'indépendance il y a 50 ans, ce pays a en effet connu le pire avec la dictature d'Amadou Sékou Touré et les délires autoritaires des militaires. Après les élections présidentielles de novembre dernier, beaucoup craignaient l'horreur avec les traditionnels affrontements entre camps rivaux ou autres groupes ethniques. Alors certes, des violences post-électorales ont bien eu lieu au lendemain du second tour, mais heureusement, la tension est très vite retombée et le perdant, Sédou Dalein Diallo, a reconnu sa défaite au grand soulagement de tous. Opposant de toujours, ancien prisonnier, ancien condamné à mort, exilé de 30 ans, le président élu Alpha Condé veut d'emblée montrer l'exemple et lutter contre la corruption. Cet homme de 72 ans a d'ores et déjà annoncé que les membres du prochain gouvernement devraient montrer un curriculum vitae irréprochable. Il veut des ministres au-dessus de tout soupçon qui feront partie d'un cabinet d'union nationale. Alpha Condé compte également mettre sur pied une commission vérité et réconciliation pour ausculter le passé. Économiquement, Alpha Condé hérite d'un pays classé dans le top 10 des plus pauvres du monde, mais au potentiel minier incroyable. Bauxite, or, diamant, pétrole, uranium, le pays suscite déjà bien des convoitises. Pour faire redémarrer son développement, il pourra aussi compter sur des centaines de millions de francs d'aide extérieure bloqués depuis le putsch de 2008.
Nicolas Vultier de la rubrique internationale de la Radio Suisse Romande.
Le 12-30, David Racana.
Suite de notre série de reportages dans les pays où la religion chrétienne est minoritaire, direction la Chine où malgré la méfiance des autorités, ils sont de plus en plus nombreux dans l'Empire du Milieu. On ignore leur nombre exact, mais les estimations parlent de 100 millions de chrétiens. La plupart sont membres de mouvements religieux clandestins, mais les églises officielles rassemblent elles aussi toujours plus d'adeptes. Le reportage de notre correspondant à Pékin, Alain Arnaud.
En Chine ou en Occident, c'est à peu près la même chose. Les commerces de Pékin nous assomment de jingle bells à haute dose. Christine a 24 ans, chrétienne depuis 4 ans, baptisée et membre de l'église catholique officielle chinoise. Et elle se distancie du Noël païen et mercantile qui est devenu si courant.
Pour moi, c'est important. C'est pas comme pour tout le monde que, oui, c'est une bonne chance de faire shopping, par exemple. C'est pas commercial pour moi. Le problème en Chine maintenant, c'est que, oui, les gens croient en argent. Quand les gens, ils ont pas de religion, ils ont peur de rien. Quand quelqu'un a peur de rien, il va tuer, il va mentir, il va faire n'importe quoi juste pour gagner de l'argent. Si t'as une religion, au moins t'as peur de Dieu. Comme ça, tu vas pas faire n'importe quoi.
Le succès fulgurant du christianisme en Chine s'explique par cette recherche de sens dans une société froide, corrompue, hyper matérialiste et profondément injuste.
J'étais à l'université et puis, ouais, j'étais vraiment perdue. Vraiment, je réfléchis toujours à quoi ça sert ma vie, à quoi ça sert ce que j'apprends, à quoi ça sert juste pour gagner d'argent. Et puis, et alors, maintenant je suis catholique. Je crois que le Dieu m'a créé pour quelque chose. Sûrement, je sais pas quoi, mais sûrement il y a un but.
Christine ne me dira pas son nom chinois et préférera ne pas être prise en photo. La constitution chinoise garantit certes la liberté de croyance, mais mieux vaut quand même être discret.
Je crois qu'il n'y a pas un problème d'être un catholique en Chine. Mais bon, quand j'étais à l'université, il ne faut pas trop dire. Parce que premièrement, les professeurs ne sont pas très contents de ça. Et deuxièmement, il y a les étudiants curieux. Ils vont poser beaucoup, beaucoup de questions. C'est un peu gênant, mais bon, c'est pas vraiment un problème.
Les problèmes sont plus réels pour les catholiques chinois de l'église dite souterraine, fidèle au pape qui ne dépend pas des autorités politiques.
À
Un reportage signé Alain Arnaud, texte détaillé, photos sur notre site internet rsrinfo.ch. Et à 4 jours de Noël, c'est la course aux achats de dernière minute, mais certaines voix s'élèvent pour s'opposer au consumérisme frénétique. Un groupe d'inspiration chrétienne, les Rebelles de Noël, tente de sensibiliser la population dans les rues de Lausanne. Jérôme Galichet les a rencontrés. Reportage.
Tu es attaqué en groupe? Non, je suis pas du tout une rebelle de Noël.
On est devant un grand magasin à Lausanne, c'est les Nocturnes ce soir. Philippe Kiner, enseignant et rebelle de Noël. Et on essaye de questionner les gens par rapport au sens qu'ils donnent à leurs cadeaux, à ce qu'ils vont offrir.
Bonjour, on est les Rebelles de Noël, on aimerait bien vous poser 2-3 questions, vous êtes d'accord?
Je m'appelle Samuel Nink Lehmann, je suis traducteur indépendant et coordinateur de ChrisNet Suisse. On milite pour un autre Noël en fait, un Noël qui retrouve un peu son sens premier et tout ça. Cette année, les Suisses vont dépenser environ 5 milliards de francs pour Noël, pour les cadeaux de Noël. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vrai que c'est énorme, quoi. Je pensais pas à ce point-là. Puis bon, c'est vrai que je suis un peu mal placée pour parler du coup aujourd'hui, quoi. Parce que vous m'avez pris un peu en flagrant délit, j'ai envie de dire, de mes achats de Noël.
Les gens sont sensibles à nos questions, même s'ils ont déjà acheté quelque chose. On voit qu'ils peuvent se sentir un peu mal à l'aise avec notre interrogation. Mais en même temps, ils sont d'accord avec ce qu'on prône.
Bonjour. Pardon, on est les Rebelles de Noël et on prône des cadeaux plutôt non matériels ou par exemple offrir une chèvre à une ONG qui peut la donner à une famille en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, je pense que Noël, c'est plutôt pour faire les cadeaux personnels.
Voilà monsieur, achetez, c'est Noël.
Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu seul contre tous?
Chacun après peut se positionner. Ça peut aussi être une période où on se dit, ben voilà, comment je me situe face à la consommation? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quel lien est-ce que j'ai avec le matériel? Pourquoi est-ce que je dépense, je consomme?
Un reportage signé Jérôme Galichet. Cette période de Noël est également favorable aux actions de charité. Les deux meilleurs joueurs de tennis de la planète, Roger Federer et Rafael Nadal, s'affrontent ce soir à Zurich et demain à Madrid, au profit de leurs fondations respectives. Des rencontres de charité qui se joueront à guichets fermés. La fondation Roger Federer soutient des organisations humanitaires en Tanzanie, en Éthiopie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Laurence Bolomé a demandé aux Balois comment ils sélectionnaient les projets financés par sa fondation. Écoutez.
C'est une chose qu'on fait très professionnelle. On a plusieurs réunions, bien sûr, par année où on regarde des projets qu'on aimerait aider. Et bien sûr, on a des critères qu'il faut suivre, que ce soit en Afrique, par exemple, pour commencer. Après aussi, que c'est un des pays les plus pauvres dans le monde. Après, combien d'élèves on peut aider, par exemple, avec cet argent-là? Combien de temps d'affilée on aide ce projet? Eux-mêmes, ils doivent faire comme une offre à ce qu'eux, ils aimeraient, parce que pas tous les projets arrivent à gérer le même nombre d'argent aussi. Et c'est pour ça que ça se passe très sérieusement, parce qu'il faut aussi regarder toujours dans le long terme. Et quand tu peux aider, voilà, par exemple, 1500 enfants pour aller à l'école, c'est une très bonne chose, mais il faut beaucoup de choses autour aussi qui jouent, comment ces enfants arrivent à l'école, est-ce qu'ils ont quelque chose à manger à l'école, est-ce qu'ils ont une toilette à l'école, ils ont plusieurs choses qui sont très très importantes et c'est là où c'est nous qui viennent et on peut décider et aussi mettre des choses en place, dire voilà, une partie de cet argent-là mais aussi d'autres choses en place et on essaie aussi d'aider ces projets de devenir peut-être encore un peu plus professionnels et comme ça dans le long terme ils vont être encore meilleurs et voilà, alors c'est pour ça c'est assez simple mais c'est quand même un grand boulot et ça me fait énormément plaisir de faire ça.
Vous avez 6 ans depuis quelques jours, vous aimeriez être plus âgé, vous ne savez pas trop pourquoi, sinon que le monde des adultes a l'air plus grand, plus coloré, plus intéressant, plus intense. Ce sont les premières lignes de votre dernier livre, Eric Witzel, bonjour.
Bonjour.
Ce livre s'appelle « Ne cherche pas à savoir », il est publié chez XO Éditions avec My Major Company Books qui permet aux internautes de sponsoriser les auteurs, de financer l'impression de leurs livres. Votre roman commence par une scène assez brutale, le père de l'héroïne Anne Garance est sauvagement assassiné devant ses yeux alors qu'elle a à peine 6 ans.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le propre du thriller, hein, d'entrer dans le vif du sujet tout de suite dès les premières lignes. Donc, c'est ce que j'ai cherché à faire avec Ne cherche pas à savoir, impliquer le lecteur très vite dans l'histoire personnelle d'Anne Garance, de mon héroïne.
Et on se retrouve ensuite assez rapidement projeté des années après ce drame. Là aussi, ça va assez vite. C'est sur les chapeaux de roue, accident de scooter dans les rues de Naples.
Oui, exactement. Oui, ça commence par un accident, mais qui ressemble à une coïncidence. Et très vite, le lecteur est amené avec l'héroïne à se demander s'il s'agit vraiment d'une coïncidence, si cet homme qui se réveille amnésique après cet accident est vraiment là par hasard, ou est-ce qu'il n'a pas un lien avec Anne.
Alors l'héroïne du livre, Anne Garance, elle est française, elle a suivi son amoureux à Naples, décidé d'y rester malgré leur rupture. On découvre une ville vraiment rongée par la mafia. Vous avez un peu forcé le trait quand même, non?
Alors bon, il s'agit d'un roman, hein. J'ai pas, même s'il y a un fond documentaire, je suis allé à Naples, j'y suis resté un petit peu, j'ai rencontré des Français là-bas, j'ai pu échanger, voir un petit peu comment se passait la vie, mais évidemment c'est un travail de fiction, hein. Donc on brode à partir d'une situation que l'on devine ou que l'on connaît, donc j'ai sans doute forcé le trait, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a un fond historique de la présence de la Camorra dans cette partie de l'Italie, qui conditionne une partie de l'atmosphère, une partie de la vie des habitants, oui.
L'héroïne, elle est aussi la narratrice de l'histoire qu'elle raconte à la première personne. C'est troublant pour un auteur masculin comme vous, Eric Witzel, de se mettre dans la peau d'une femme quand on écrit ?
Troublant, non. Alors, j'ai toujours plusieurs réponses à ça, parce que c'est vrai que ça pose toujours un petit peu question, mais... Quand je pense à une histoire, genre thriller ou quelle qu'elle soit, hein, si je la mets dans la tête, ou si je me mets tout de suite dans l'esprit d'une femme, elle prend une dimension, pour moi une dimension supplémentaire. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler de l'exotisme, une curiosité, l'impression de nouveauté, mais bon, moi j'y trouve beaucoup plus d'intérêt à l'écrire. Voilà, puis c'est vrai que j'ai été élevé aussi beaucoup par des femmes, donc j'ai l'impression en tout cas, et je crois que les lectrices m'ont pas encore dit le contraire, mais que ça sonne juste. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai cherché à retrouver cette voix-là dans Ne cherche pas à savoir, la voix d'une femme qui est prise dans des événements qui la dépassent.
Alors on l'a dit, Eric Witzel, votre livre a été édité grâce aux internautes du site My Major Company Books. Vous n'en êtes pourtant pas à votre coup d'essai. Vous avez publié plusieurs romans fantastiques avec des dragons, de la sorcellerie. Vous n'auriez pas pu finalement faire publier ce livre ailleurs? Vous avez quand même des contacts dans le monde de l'édition?
Oui, bien sûr, mais moi j'avais choisi en fait XO, hein, c'était pas My Major Company, le projet n'existait pas quand j'ai écrit le roman, et XO m'a proposé cette façon de procéder, et c'est vrai que j'ai été séduit par la possibilité de rencontrer des lecteurs peut-être pas tout à fait dès l'écriture, mais d'avoir déjà des lecteurs, des gens qui s'enthousiasmaient pour le livre avant même qu'il ne soit publié. Et moi j'avais déjà ce contact-là avec un certain contact en tout cas avec les internautes par mon blog, par Facebook, aussi par les dédicaces que je faisais. Je crois que c'était un moyen de prolonger cette expérience humaine.
Alors on a beaucoup parlé dans les médias de ce concept d'édition participative. Qu'est-ce que ça donne au niveau des ventes? Vous avez des chiffres pour votre roman déjà?
Alors moi non, moi je n'ai pas de chiffres. Interroger mon éditeur, c'est encore un petit peu tôt. Je pense qu'on peut se donner rendez-vous dans quelques mois pour savoir ce qu'il en est.
Est-ce que vous vous sentez quand même libre en tant qu'auteur, malgré le fait que vous avez des dizaines d'éditeurs finalement? Vous leur devez des comptes ou pas forcément?
Moi je me sens pas redevable au niveau de l'écriture, hein, proprement dit, heureusement, parce que sinon ça serait pas possible, on aurait des centaines. Moi j'ai 388 éditeurs différents pour Ne cherche pas à savoir, donc s'il a fallu que je leur demande leur avis à tous, ça n'aurait pas été possible. Par contre, redevable d'échange pour leur dire comment se passe la vie du livre une fois qu'il est publié, oui. Donc j'ai cet échange presque quotidien avec eux sur My Major Company, sur la page, pour leur dire ce qui se passe, les déplacements que je fais, les tenir au courant aussi de la presse, comment on parle du livre autour de nous.
Merci beaucoup en tout cas, Eric Witzel, d'être venu en direct dans ce journal depuis nos studios de Paris. Votre roman Ne cherche pas à savoir est publié chez XO Édition avec My Major Company Books. Merci, bon après-midi à vous.
Au revoir.
Et on prend des nouvelles du ciel avec Carole Dubuis.
Les rayons de soleil attendus en matinée ont été quasi inexistants ce matin. Une perturbation arrivera sur la Suisse romande ces prochaines heures. Les nuages se feront de plus en plus présents cet après-midi. Chargés d'air chaud et humide, ils donneront de la pluie dès le milieu de la journée. Elle arrosera le bassin lémanique, le Jura et les Alpes valaisannes s'estompant du côté de Payerne. Le Valais sera certainement épargné par les gouttes. La limite pluie-neige augmentera au fil des heures. En soirée, elle sera à 1600 mètres. Cet après-midi, il fera 5 degrés en plaine, moins 1 2000 mètres. En montagne, un vent de sud-ouest soufflera de façon modérée, voire forte. Le feu se lèvera dans les vallées alpines. Demain, du gris au programme, les températures seront encore douces avec un maximum de 7 degrés, 10 dans la vallée du Rhône par effet de feu. Mais le réchauffement se constatera surtout en altitude avec 3 degrés à 2000 mètres. La limite des chutes de neige remontera à 1700-2000 mètres.
La météo avec Generali.
La fondation Pierre Giannada et son exposition de Renoir à Sam Safran.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dernier volet demain de notre série d'entretiens avec des écrivains édités grâce à la plateforme communautaire My Major Company Books. Nous recevrons Al Coriana pour parler de son roman No Life. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est 13h.